Renault.
L'autre jour, un chef d'atelier Renault me demande « Monsieur José, vous pourriez nous aider à recruter pour le service après-vente » Et le voilà qui me parle de ses métiers de plus en plus technologiques, avec des formations régulières, bref, le gars passionné. Moi je dis, il ferait mieux de parler à ma place.
Les ateliers Renault Car Service recrutent des mécaniciens, électromécaniciens et carrossiers, débutants ou confirmés. Postulez sur recrutement-réseau.renault.fr. Renault Car Service, numéro 1 du SAV 2024. Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault? Source l'Automobile Magazine 2023.
Avec Nathan Franqui, avec Jean-Luc Vasseur, l'entraîneur de Reims et des Lyonnaises championnes d'Europe, avec Eric Dimeco de la Dream Team RMC Sport et avec le chanteur français Grégory Bakian. Ce soir à 20h, l'Espagne face au Japon et l'Allemagne contre le Costa Rica jouent leur qualification pour les huitièmes de finale. La Roja a son destin en main, au contraire de la Mannschaft qui va prier pour un succès espagnol. Il existe même un scénario qui verrait espagnol et allemand éliminé. Alors mérite-t-il de passer, de se qualifier pour les huitièmes de finale? 32-16 touche 9. Vos messages sur la chaîne twitch.tv/RMC Sport. On accueille Paulo Breitner et Fred Hermel, nos spécialistes Allemagne et Espagne. Bonjour les drôles de dames.
Hola chicos.
Bonjour mon cher Jérôme, bonjour tout le monde.
Comment ça va messieurs? Est-ce que vous êtes confiants avant ces deux rencontres ce soir? Bon, on va commencer par Paulo, parce que l'Allemagne joue un peu plus gros quand même contre le Costa Rica.
Bah, elle est théoriquement en ballotage défavorable maintenant. Alors j'ai fait les calculs ce matin très tôt, donc j'espère que je ne suis pas trompé. Oh. Je vais vous poser une petite colle. C'est quand la dernière fois que l'Allemagne ou la RFA s'est qualifiée directement, donc au bout de deux journées, sans passer par un match couperet à la troisième journée évidemment, en enlevant les Coupes du Monde où elle a organisé l'événement.
Ouais, ça doit être 90. Après moi, si tu nous poses la question.
90.
78, non?
Puis si tu dis RFA, c'est avant 89.
Donc, en fait, il faut revenir à 1970. Donc en fait, la norme, c'est que, et on le voit d'ailleurs dans cette Coupe du Monde, c'est que les équipes qui sont qualifiées déjà au bout de la deuxième journée, il y en a très peu. Donc en fait, c'est un peu une légende urbaine, quoi. C'est-à-dire que le
ouais, mais la Pierre, Polo, là, tu es en train de siffler dans le bois, là, en pleine nuit, pour pas avoir peur, là. Tu es peut-être
c'est pas ça,
des années 70, oh.
Mais je suis en train juste de rappeler que les grandes nations se qualifient en général de la dernière journée, donc le risque de se faire éliminer à la dernière journée existe quasiment à chaque Coupe du Monde. C'est juste ce que je dis.
Et ensuite, que les grandes nations savent mieux gérer ce genre de...
Et l'histoire, c'est quand qu'ils ont eu qu'un point après deux matchs, alors du coup...
Pardon ?
Eh bien, quand est-ce qu'ils ont eu un point après deux matchs ? Parce que c'est ça qui était inquiétant.
Ça remonte à... j'ai pas
vu, je me rappelle plus. Moi, c'est jamais arrivé, d'après moi.
Ah, je sais plus trop, faudrait voir. Un
pays comme l'Allemagne, c'est jamais arrivé, je pense.
Ils ont été dans des situations très délicates déjà par le passé. Le problème, c'est est-ce que t'es en ballotage favorable ou pas ? Là, évidemment, théoriquement, le ballotage n'est pas favorable parce que le Japon peut battre l'Espagne, en théorie, et ben, on verra bien ce qui va se passer ce soir. Donc, non, mais c'était juste pour sortir cette statistique, parce qu'en fait, on a l'impression qu'ils ne méritent pas d'être en huitième. Mais en fait, dans ces conditions, tous les quatre ans, l'Allemagne ne mérite pas d'être en huitième, parce qu'ils doivent se qualifier lors de la dernière journée.
Et au niveau de ce qui se dit en Allemagne, Polo, est-ce qu'il y a la conviction que les Allemands vont éviter une deuxième sortie de route dès le premier tour? On rappelle qu'en 2018, champion du monde en titre, l'Allemagne se fait éliminer dès la phase de poule.
En fait, pas tant que ça. On veut éviter en fait un scénario justement en sortant la calculette, c'est-à-dire qu'on voudrait marquer le plus rapidement possible pour ne donner aucune chance au Costa Rica, en espérant que l'Espagne fasse le boulot de l'autre côté, tout en sachant que le scénario du 8-0 est évidemment peu envisageable contre le Costa Rica.
Il y a eu une période où c'était possible, c'est plus possible ça.
Ouais, hein, c'est compliqué.
Fred, du côté de l'Espagne, on ne s'inquiète pas trop. Alors, il y a cette égalisation allemande en fin de match qui fait que vous êtes que la Roja n'est pas qualifiée après les deux premiers matchs, alors que ça paraissait bien embarqué, cette histoire-là. L'Espagne, face au Japon, il y a une grande confiance au pays?
Bah oui, parce que vous venez de le dire, le 7-0 pèse énormément. C'est ça. C'est-à-dire que même en perdant contre le Japon, l'Espagne est qualifiée. Sauf si le Costa Rica bat l'Allemagne. Donc, c'est-à-dire que la situation est quand même... L'Espagne est là où elle doit être après ces deux matchs. Parce qu'une victoire contre le Costa Rica, c'était prévu. Une telle victoire si ample n'était pas prévue, donc c'est une bonne nouvelle. Et faire match nul contre l'Allemagne, c'est un très bon résultat. quand, au moment du tirage au sort, tu te dis, te retrouver à 4 points et avec un goal average de plus 7 dans un groupe où il y a l'Allemagne, où il y a le Japon, voilà, bon, le Costa Rica est un peu... était vraiment un petit pays par rapport aux autres. Bah, finalement, l'Espagne est qualifiée à 99% de chance. Donc non, il n'y a pas d'inquiétude du tout du côté des Espagnols. Parce que j'insiste, les Espagnols ont fait ce qu'il fallait pour être là. C'est-à-dire qu'on ne peut pas considérer qu'un match nul contre l'Allemagne, alors que tu as gagné 7-0 le premier, soit un mauvais résultat. Donc bravo l'Espagne, elle est le plan se déroule sans accroc comme disait quelqu'un, Hannibal Smith exactement.
Nathan Francky.
Moi je suis pas du tout inquiet pour l'Espagne, au-delà du score du premier match, y compris dans ce qu'on a vu dans le deuxième. Le contenu pour moi est excellent et surtout ils ont une maîtrise technique que je trouve tellement supérieure à tout le monde dans cette Coupe du Monde. Que moi, j'ai aucun doute sur leur qualification et sur leur capacité à aller très loin dans la compétition.
Après, Nathan, bah, je suis d'accord avec toi,
ouais,
sur la maîtrise technique, mais je vais me répéter, il n'y a pas de pieds carrés en Espagne. Les pieds carrés ne jouent pas au football. Non, mais c'est-à-dire que tout joueur espagnol...
Ils jouent au rugby en Espagne, les pieds carrés.
Oui, il y a quelques petits clubs de rugby sympas. Ouais, mais sérieusement, donc, la sélection naturelle qui se fait dans les centres de formation fait que les joueurs qui ne sont pas techniques ne continuent pas, ne deviennent pas footballeurs. Donc là, la maîtrise technique, elle est minimale. Après, on a vu quand même contre l'Allemagne les 20 dernières minutes, avec les changements de Luis Enrique qui n'ont pas été très très bons, à part celui de Morata qui est exceptionnel, mais ça on s'en doutait. Mais tu vois, l'entrée de Coquet, de Nico Williams, de Baldé à la place de Jordi Alba qui fait une très bonne Coupe du Monde. Voilà, dans la gestion, l'Espagne aurait pu perdre cette rencontre et se retrouver dans une situation compliquée aujourd'hui. Donc il y a une maîtrise technique, mais on a l'impression que la maîtrise technique, elle est quand il y a l'équipe type. Si tu fais quelques changements, c'est peut-être un peu plus compliqué, notamment au milieu du terrain.
Bakayan.
Ouais, au niveau de la profondeur de banc, je suis assez d'accord. Après, c'est vrai que c'est une culture. Ils produisent du jeu, il y a une belle animation. C'est un peu la marque de fabrique de cette nation. Et effectivement, je suis complètement d'accord. Ils ne sont pas du tout dans le même cas de figure que l'Allemagne. C'est deux situations complètement différentes, deux niveaux aussi pour l'instant sur la physionomie des deux premiers matchs de cette Coupe du Monde. Complètement différente. Donc, effectivement, sur les deux premiers matchs, je pense qu'il n'y a pas. Même s'il y a quelques points d'interrogation encore, mais c'est l'entrée en compétition aussi. On l'a vu par le passé avec plein de nations qui ont pourtant été loin dans la compétition. Mais non, l'Espagne a montré quand même des choses très intéressantes sur les deux premiers matchs. Ouais.
Jean-Luc Vasseur. Après...
Oui, l'Espagne c'est un collectif. Hein. C'est un collectif, c'est des morphotypes au niveau des joueurs très techniques, très intenses dans l'intensité, dans la récupération du ballon, à la fois assez vif et puis aussi, on va dire, endurant. En revanche, contre les Japonais, faut pas jeter la pierre aux Japonais. C'est une belle équipe, c'est très structuré, c'est très
dynamique.
C'est très dynamique. C'est tactiquement, c'est souvent très au point. Et ça a cette capacité du don de soi pour le collectif aussi. Donc attention à ça. Et puis l'Allemagne a elle de performer. Hein. Et effectivement, ça va être... je pense qu'ils en ont les moyens aussi. Moi, je vois quand même l'Espagne et l'Allemagne se qualifier quand même.
Avec quelle équipe, du coup, Polo, l'Allemagne va se présenter ? Est-ce que Füllkrug, le sauveur face à l'Espagne, celui qui a permis d'égaliser, va être titularisé pour la première fois dans cette Coupe du Monde ?
Écoute, les tendances, c'est pas ça. En gros, on va rester peut-être avec ce milieu à trois qui est aussi une légende urbaine, c'est-à-dire Gundogan, Kimmich et Goretzka. Parce qu'avant, le match contre l'Espagne, Hansi Flick avait utilisé une seule fois ces trois milieu, c'était contre l'Islande en 2021, quasiment à ses débuts.
Donc il va mettre qui avant centre, Thomas Müller encore ?
On annonce encore Thomas Müller. On ne sait pas si Leroy Sané sera à 100%. Kai Havertz, gros point d'interrogation. Est-ce que Moussiala va être en 10 ? Alors évidemment, il n'a pas donné d'informations. Il a juste dit les joueurs qui étaient capables de jouer ou qui n'étaient pas capables de jouer, comme David Rome qui est revenu à l'entraînement. Mais j'ai l'impression qu'il, même s'il ne veut pas avoir une calculette avec lui, qu'il va jouer relativement prudemment au début. Et puis en fonction de ce qu'il a besoin comme résultat, il va faire rentrer les joueurs qui sont nécessaires, comme Füllkrug, voire Gnabry, qui n'est pas forcément titulaire ce soir. Mais le problème, c'est que le Costa Rica va jouer à 5 derrière, j'ai presque envie de dire ils vont jouer à 7 derrière, donc il va falloir trouver des espaces, ça va être à Moussiala de faire le boulot, je pense qu'évidemment que l'Allemagne aura une possession très très importante ce soir, et là tu aurais le droit de prendre des risques, tu pourrais le droit de remettre Hoffmann arrière droit par exemple, alors que c'est plutôt un ailier voire milieu offensif, mais ce qu'il a fait assez souvent d'ailleurs Hansi Flick qu'il ne fait pas depuis la Coupe du Monde. Bon voilà, on verra bien ce que ça va donner, mais en tout cas, au-delà des calculettes, la première impératif, c'est que l'Allemagne l'emporte contre le Costa Rica.
Éric Dimeco.
Ouais, juste pour balayer vite fait cette poule-là, je suis inquiet pour les Allemands. Voilà, je suis inquiet pour les Allemands, parce que même en gagnant, ça peut mal tourner pour eux. Et je suis fasciné par l'Espagne, fasciné par la faculté de fabriquer des joueurs merveilleux. Dans cette équipe-là.
C'est la sélection.
Quand je vois Pedri, Gavi, je me dis, putain, mais le Barça, ils ont fabriqué et refabriqué Xavi Iniesta 5 ans après. C'est beau, non?
Ouais.
Tu vois, ils auraient pu prendre un grand
sifflet. Ils ont cloné.
Ils auraient pu prendre un grand sifflet. Non, des petits qui tournent autour des mecs sans que tu les vois et tout. C'est fascinant. Alors après, moi, je dans la sélection-là, j'ai l'impression par rapport à ce qu'on a connu du Barça, parce que je compare toujours le Barça et l'Espagne, ça se ressemble tellement. Il y a eu une période où ils m'agaçaient quand c'était de la passe à 10, où il n'y a pas de profondeur, où ils veulent rentrer dans le but avec le ballon. Là, j'ai l'impression que ça, c'est moins ça aujourd'hui, même si c'est quand même une concentration.
Ils ont toujours très peu d'occasions.
J'attends de les voir contre une grosse équipe solide défensivement.
Alors Eric, voilà. Tu sais qui avait fait évoluer le jeu du Barça à l'époque?
Luis Enrique,
quand il était entraîneur de cette équipe, après la période Guardiola, Tito, Villanova. Donc oui, c'est beaucoup plus vertical l'Espagne aujourd'hui. Après, moi, le seul... Alors, pour expliquer pourquoi l'Espagne a des joueurs aussi bons, c'est-à-dire qu'il y a de gros clubs, et en Espagne, on a toujours mis beaucoup d'argent dans la formation. On sélectionne très bien. Donc déjà, ça aide à pas laisser passer des joueurs très techniques. Je vous rappelle que Griezmann avait été refoulé en France parce qu'il était trop technique et pas assez puissant physiquement, et il a été formé en Espagne. Un Griezmann ne serait jamais passé sous les radars en Espagne. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. Après, moi, le seul doute que j'ai sur l'Espagne, c'est que oui, dans le style, elle ressemble à la grande équipe, sauf que c'est surtout un collectif aujourd'hui. Individuellement, c'est difficile de trouver un Espagnol dans les trois meilleurs du monde à chaque poste. Peut-être que Gavi et Pedri le sauront un jour. Ils ne sont pas encore. Et le reste des joueurs qui sont dans cette sélection, aucun ne peut prétendre être dans les trois premiers.
Ouais, mais Fred, justement, moi je trouve que...
Et après on accueille Youssef.
Je trouve que c'est plutôt une bénédiction parce que, et tu regardes sur les équipes championnes d'Europe ces dernières années, c'est souvent des collectifs très forts, sans individualité qui sort du lot.
Ouais, alors, mais oui, mais obligatoirement il faut du lot.
Contrairement à moi, je pense que Messi et Ronaldo, alors ce que je vais dire c'est terrible, mais et ce sont des immenses joueurs qui vont rester dans l'histoire. Mais ils ont fait du mal au football entre guillemets, parce que, et d'ailleurs le PSG croit encore qu'avec les grands joueurs tu gagnes une grande compétition, et malheureusement en Ligue des Champions ces derniers temps on se rend compte que c'est les gros collectifs qui ont gagné et que peut-être il n'y a pas une tête qui dépasse, et c'est pour ça que l'Espagne c'est plus un problème aujourd'hui, je trouve, si tu as un gros collectif qui est fort ensemble.
Youssef,
la petite différence, ouais. Pardonne-moi, la toute petite différence à un moment, la petite action de génie que fait un Mbappé, que fait un Messi, que fait un Ronaldo. Il y a pas, en Espagne, on n'a pas forcément de joueurs pour ça.
Youssef et Karim au 32-16. On va d'abord prendre Youssef sur l'Espagne, supporter également du Barça. Youssef, pas d'inquiétude?
Bonjour à tous. Non, aucune inquiétude sur la qualification de l'Espagne. On l'a bien vu déjà au premier match. Ils ont une supériorité technique à toutes les équipes qui sont dans leur poule. Le seul problème de l'Espagne, pour moi, c'est que... ils feront 8e, quart, mais pas plus loin. Je ne vois pas comment une équipe peut gagner un mondial avec un seul numéro 9 qui est Morata, qui plus est joué remplaçant. Il rentre, il rentre et il marque aux deux matchs quand même. C'est le seul Espagnol qui marque aux deux matchs. Le premier, ils en ont mis 7, tout le monde a marqué, mais le deuxième, heureusement qu'il est là contre l'Allemagne.
Ce sera une excellente question à poser, on se la posera dans les grandes gueules du mondial. Peut-on être champion du monde sans grande avancante? Parce que ça concerne aussi l'Allemagne, ce qui me permet d'aller voir Karim.
On est bien placé pour répondre.
Ouais. Karim, supporter de Dortmund et de la Mannschaft, toi tu es, un peu plus inquiet avant ce match ce soir.
Oui, bonjour tout le monde. Moi je suis pas vraiment inquiet. Moi le match contre l'Espagne, il m'a beaucoup fait plaisir. parce que les Espagnols, je les trouve vraiment forts. Et ce que j'ai aimé dans ce match, c'est l'intensité mise par l'Allemagne dans les pressings tout le long du match. Et tellement en première mi-temps, je me suis dit, est-ce que les Allemands ils vont tenir? Et en fait, c'est les Espagnols qui n'ont pas tenu en deuxième mi-temps. Et je pense que si l'Allemagne joue avec son équipe type, ça veut dire avec le roi Sané côté droit, et j'espère Füllkrug en attaque, moi je les vois aller loin, l'Allemagne. Et je les vois mettre un carton ce soir contre le Costa Rica.
Eh bien écoute, on le souhaite en tout cas pour les supporters allemands. Merci Karim, merci Youssef. C'est la fin de l'émission déjà, c'est la fin de ces grandes gueules du mondial. On va remercier Fred Hermel et Paulo Breitner.
Adios.
On vous retrouve évidemment toute la journée sur RMC et RMC 100% Coupe du Monde. Merci Loïc Moreau, merci Nathan Franqui, merci Jean-Luc Vasseur. À très vite dans les grandes gueules du mondial. Merci Eric Dimeco. On te retrouve dans le Moscato Show dans deux heures maintenant sur RMC. Et on remercie également Bakian qu'on retrouve donc le 12 décembre au Casino de Paris, c'est ça
exactement, et je vous y attends avec plaisir. Merci beaucoup.
Merci beaucoup d'être venu dans les grandes gueules du mondial. Et on se retrouve dès demain 11h. Salut les amis, ciao.